Les chrétiens ont été expulsés de Rome en abandonnant toutes leurs possessions. Et donc l'auteur de cet épître disait au verset 32 que vous avez sous les yeux, « Souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairés, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances. D'une part, exposé comme un spectacle aux opprobres et aux tribulations, et de l'autre, vous associant à ceux dont la position était la même. En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez des biens meilleurs et qui durent toujours. » Voilà ce que disait l'auteur. Il continue aussi chapitre 13, verset 3, qu'on a donc un petit peu sur le panneau là. « Souvenez-vous des prisonniers comme si vous étiez aussi prisonniers, de ceux qui sont maltraités comme étant aussi vous-même dans un corps. » Ça, c'est la version seconde. Et une autre version disait, pardon, « Pensez aux prisonniers comme si vous étiez en prison avec eux. Pensez à ce qu'on torture comme si c'était vous qu'on torturait. » Donc, souvenez-vous de ces premiers jours. La persécution survient souvent dès les premiers jours d'une église. Pourquoi cela ? Parce que ceux qui se convertissent quittent la croyance suivie par la majorité pour suivre Christ. Voilà pourquoi la persécution va souvent de pair avec la croissance de l'Église. Je voudrais inviter Claude à prendre la parole aussi. On va vous donner quelques exemples des Huguenots persécutés en France lors de la Réforme.
Vous avez vu dans la vidéo, on parlait de Marie Durand particulièrement. Elle a été emprisonnée, savez-vous combien de temps ? 38 ans dans la tour de Constance, et elle a gravé « résister ». Donc elle a gardé la foi, et c'est un exemple pour nous. Hein? Donc souvenons-vous des premiers jours des églises protestantes et évangéliques en France. Et donc à cette époque-là, eh bien, ils se réunissaient en secret, c'est pour ça qu'il y a le musée du désert. Si un jour vous allez dans le sud de la France, vous pouvez aller visiter le musée du désert. Ils acceptaient qu'on leur vole leurs biens, ils acceptaient de lire la Bible en secret. Ils fuyaient dans des maisons, dans des villes de refuge, dans beaucoup d'autres pays, et ils étaient emprisonnés, physiquement maltraités. Mais aujourd'hui, par exemple en Inde, les chrétiens subissent la persécution, en partie parce qu'ils sont nombreux à quitter l'hindouisme et à se tourner vers le Seigneur Jésus. Et vous avez vu cette vidéo, sur la vidéo, ces exemples de sœurs que nous avons pu rencontrer, et nous-mêmes nous sommes allés là-bas, nous avons rencontré ces sœurs et elles nous ont expliqué que le fait de quitter l'hindouisme a tout de suite engendré la persécution. Les hindous rentrent en force dans les villages, et vous avez vu leur témoignage, ils rentrent en force dans les villages avec beaucoup de violence, des menaces, et ils les obligent à se reconvertir. Pourquoi ? Parce que l'Inde a décidé d'être un pays avec une seule culture, une seule langue et une seule religion, l'hindouisme. Donc on essaye le plus possible de ramener, entre guillemets, les chrétiens à la maison, c'est-à-dire dans la maison de l'hindouisme. Voilà. Et donc nous les avons rencontrées et on a pu prier avec elles et suivre des séminaires post-traumatiques avec elles. Il y avait 85 veuves, je dis bien veuves, et Portes Ouvertes est là pour les aider à rebondir dans la vie et à rester ferme dans la foi. Oui, si je dis veuve, c'est parce que leur mari a été assassiné parce qu'ils étaient chrétiens, bien sûr.
Dans le monde musulman, les convertis sont les plus persécutés. Par exemple, en Iran, où il y a beaucoup de conversions, le prix à payer est souvent très élevé. On voudrait vous donner l'exemple du pasteur Reza.
Il y a quelques mois, j'étais avec une sœur d'Iran et je lui expliquais que nous avions eu le privilège de rencontrer telle et telle personne à tel et tel endroit. Et je lui ai dit, « As-tu des nouvelles ?» Elle me dit, « Oui, c'est mon père. » Et elle-même avait fait 4 mois de prison, emprisonnée dans la prison des hommes, exprès pour être encore un peu plus humiliée. Son frère a fait de la prison, son papa et sa maman, c'est pour vous dire. Donc ce sont des pays dans lesquels il est très difficile de rester chrétien, et tout se fait clandestinement. Les violences sont très importantes. Et son papa, qui est en prison pour 10 ans, disait ceci: je passe le plus clair de mon temps dans la prière, je marche inlassablement dans ce petit espace, deux pas en avant, deux pas en arrière. Et c'est la seule chose que je puisse faire. Et je parle à mon Seigneur tous les jours. Et je me demande si au prochain interrogatoire, ce ne sera pas moi, parce que ce sont des périodes très difficiles à passer. Mais il a dit ceci, et c'est elle qui nous l'a dit: j'ai pris conscience qu'il ne me restait plus que Jésus-Christ, et c'est le plus important pour moi. Bénissons ce pasteur qui n'a pas voulu quitter son pays et qui en a pris pour 10 ans de prison.
Pourquoi est-il si important de se souvenir de ces persécutions? Eh bien, l'exemple de l'Église persécutée peut nous encourager à nous motiver et à vivre en Christ aujourd'hui. Nous sommes toujours dans un combat. C'est pour cela que l'auteur de l'Épître aux Hébreux exhorte les chrétiens à se souvenir de leurs persécutions passées. Il veut les encourager pour leur présent et leur futur. Nous avons lu en Hébreux 10, 32, vous avez soutenu un grand combat. De quel combat s'agit-il? Le terme combat est une métaphore sportive. Paul dit dans 2 Timothée 4, verset 7, « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » La vie chrétienne demande un effort et impose des souffrances. La persécution est l'un des obstacles que nous devons affronter. Elle engendre des souffrances, et ce, même s'il y a de la joie à souffrir pour le Christ. Hébreux 10, 34, nous l'avons lu tout à l'heure, disait « Vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens. » La persécution prend des formes différentes. Il y a deux types de persécution. La première, la persécution étho. Elle est basée sur le rejet, la discrimination, l'exclusion, l'emprisonnement. Voyons quelques exemples. Les attaques publiques par des accusations mensongères et diffamatoires. Les chrétiens d'origine juive étaient exposés comme en spectacle. L'apôtre Paul lui-même explique que les apôtres étaient en spectacle. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 9. Il disait « Car Dieu a fait de nous, apôtres, les derniers des hommes, des condamnés à mort en quelque sorte, puisque nous avons été en spectacle au monde, aux anges et aux hommes. » La persécution était publique devant leurs voisins et leurs compatriotes. Cela entraînait très certainement un rejet social très douloureux. Il en est de même aujourd'hui.
Par exemple, en Indonésie, une jeune fille a rencontré le Seigneur Jésus. Et vous savez que lorsqu'on va dans ce pays, c'est la nuit qu'il faut rencontrer des chrétiens, parce que c'est un pays qui est à 99% musulman. Et donc, cette jeune femme a choisi de suivre Jésus, et lorsqu'elle parle, elle en a parlé à ses parents. C'est une telle honte dans la famille qu'elle a été totalement rejetée. Et pour qu'il soit, pour justifier ce rejet, ils ont déclaré qu'elle s'était prostituée, en plus. Donc vous voyez que ce sont des choses qui sont très difficiles à vivre. Et une autre forme de persécution étho, c'est aussi l'enlèvement des biens. Par exemple, en Iran, et c'est ce qui s'est passé pour la famille du pasteur Reza, on les appauvrit. Et en faisant quoi? En leur disant, si vous voulez sortir de prison, la caution, ce sera de 30 000 euros. Donc imaginez une famille qui veut faire sortir quelqu'un, un membre de sa famille de prison, 30 000 euros c'est des fortunes, et ça ne vient pas comme ça du ciel. Donc ça aussi c'est une forme de persécution, c'est appauvrir les familles en demandant des sommes absolument exorbitantes. Et nous étions dans un pays il y a quelques mois, un des pasteurs qui a réuni 15 personnes, vous vous rendez compte, 15 personnes, il s'en est pris pour 930 euros d'amende. Et ça représente plus de 2 ans de salaire. Parce que c'était vraiment dans la campagne et ce sont des gens qui sont très pauvres. Et nous étions là et il nous disait, on nous a fait rentrer dans la cour, on nous a fait descendre de voiture seulement quand les portes étaient fermées et on n'en est ressorti que la nuit pour ne pas être vu. Et on était en voiture à vitres teintées. Donc pour eux, ils prennent des risques. Déjà de nous rencontrer, mais ils prennent beaucoup de risques à avoir des réunions régulières. Donc ils nous disaient, on change de lieu tout régulièrement pour ne pas attirer l'attention. 15 personnes. Hein, combien sommes-nous aujourd'hui? Un autre exemple aussi, en Irak, et nous y étions l'année passée, nous avons rencontré des chrétiens qui nous ont dit, à 3 heures du matin, nous avons dû tout quitter. Et nous sommes partis de Karakoch pour monter à Erbil, au Kurdistan. Et on a tout perdu. Et là, nous avons rencontré un monsieur qui est vétérinaire, nous avons rencontré un professeur d'histoire-géographie qui était à l'université de Mossoul avant, et ils nous ont dit, on a tout abandonné, on est parti dans notre voiture avec rien, seulement nous et ce qu'on avait sur nous. Et même une famille qui a dû monter dans un bus, qui n'avait pas de voiture, qui a dû monter dans un bus, on a arraché la petite fille de 3 ans dans les bras de sa maman. Et elle a été retrouvée 3 ans après seulement. Et donc, ces chrétiens nous ont dit, vous savez, on a tout perdu. Mais on a gagné une chose. Pour nous, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et sur toutes les portes, on voyait Jésus. Jésus est avec nous et merci à la France de nous avoir aidés. Sur toutes les portes, ils avaient collé ça sur le bâtiment où il y avait tous ces réfugiés. Donc on dit merci au Seigneur pour ce travail profond dans les cœurs, pour tous ces chrétiens qui ont tout quitté, à qui on a volé les biens, et quand ils reviennent dans leur maison actuellement, eh bien, il est bien difficile de... Ils retrouvent des maisons toutes brûlées. Et grâce aux pétitions que vous avez signées, eh bien, un papa est allé avec les avocats de Portes Ouvertes au mois de décembre, avec son petit garçon, à l'ONU, et l'ONU va prendre cas des frères et des sœurs qui sont réfugiés au Kurdistan actuellement. Alors merci, parce qu'ils ont apporté 800 000 signatures de pétitions, dont certainement les vôtres, et ils nous ont toujours dit, dites merci. Alors nous vous adressons des grands remerciements pour eux.
Alors je disais tout à l'heure qu'il y avait la persécution étau, donc il y a un deuxième type de persécution, c'est la persécution marteau. Ce sont des violences physiques et matérielles soudaines, extrêmement brutales envers les biens et les personnes. Cette persécution est la plus volontairement médiatisée pour engendrer la peur. Daesh l'a utilisée depuis très longtemps et l'utilise encore, même si Daesh a disparu, les gens qui appartiennent à Daesh sont encore vivants et font encore des mauvais coups partout. Dans plusieurs régions du monde, on peut voir ces innombrables attaques perpétrées par de nombreux groupes armés semant la terreur. Si vous écoutez la radio, la télévision, il ne se passe pas une semaine sans qu'il y ait une attaque. Et très souvent, ce sont des chrétiens qui sont attaqués. On peut citer parmi les plus connus Daesh, donc au Moyen-Orient, les Séléka en RCA, on en a parlé tout à l'heure dans la vidéo, les Chebab en Somalie, aussi on en a parlé dans la vidéo, et au Kenya, ils sont actifs aussi au Kenya, Boko Haram au Nigeria. Nous avons rencontré beaucoup de pasteurs au Nigeria. Nous sommes allés au Nigeria il n'y a pas très longtemps. Et on a vu les dégâts qui ont été faits dans différentes villes du Nigeria. On se croirait, après un passage d'une guerre, c'était incroyable. Ils ont rasé les maisons, brûlé, tué les gens. Affreux, quoi. Le témoignage qu'on a eu tout à l'heure. Là. Et il y en a bien d'autres. On voudrait aussi vous donner le témoignage de Mina et Sunita. Donc les deux sœurs. Voilà, ces deux sœurs, dont celle de droite a parlé tout à l'heure dans la vidéo.
Et juste pour vous dire que le Seigneur nous dit, pleurez avec ceux qui pleurent et réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Et c'est ce que nous sommes allés faire avec toutes ces sœurs. Et vous pouvez remarquer une petite chose. Regardez cette sœur qui est à gauche, qui a un sari orange, elle était magnifique. Et vous voyez qu'elle n'a pas de bras à gauche. Et voilà ce qu'elle nous a dit. Elle nous a dit, quand je me suis sauvée dans la forêt, eh bien, j'ai été rattrapée et mon bras est parti avec un coup de machette. Et uniquement parce que je suis chrétienne. Et maintenant, ces sœurs sont dans des villages de refuge. Et grâce à Portes Ouvertes, des maisons ont été reconstruites. Et ceux qui peut-être ont participé à ce qu'on appelle la course des héros, eh bien, ont participé à la reconstruction de ces maisons. 27 maisons qui ont été totalement détruites pour ses frères et ses sœurs. eh bien, ont été reconstruites l'année passée grâce à Portes Ouvertes. Alors là aussi, c'est un grand merci. Ils nous ont dit, mais surtout, dites merci. Et c'est vraiment ce que nous voulons vous dire ce matin. Merci parce qu'ils n'ont pas été oubliés par vous, par Portes Ouvertes. Et Portes Ouvertes n'est qu'un canal. Qui est Portes Ouvertes? C'est nous tous. C'est nous tous. Alors, merci de leur part.
Voilà, nous avons encore lu en Hébreux 10, 33, ce que vous avez sur l'écran là, vous associant à ceux dont la situation était la même. Donc il nous est demandé de nous associer à ces chrétiens, et donc la parole de Dieu met en relief deux caractéristiques. D'une part, leur courage sous la persécution, d'autre part, leur solidarité avec ceux qui étaient persécutés. L'Église est toujours appelée à vivre ces deux alternatives, soit de vivre la persécution elle-même, soit de s'engager à aider ceux qui sont persécutés. L'Épître aux Hébreux nous montre que les chrétiens ont manifesté un réel engagement pour l'Église persécutée. Ils sont un modèle pour nous. À l'époque des Hébreux, les prisonniers pouvaient même mourir de faim à moins que leurs amis ne leur apportent de la nourriture. Ce n'était pas comme actuellement en France, où on prend quand même soin de prisonniers. À l'époque, prisonniers perdus dans des prisons infâmes. Et ceux qui, si on voulait que ces personnes continuent à vivre, il fallait que leurs amis, leurs familles leur apportent à manger. Mais s'identifier, ça voulait dire aussi s'identifier à eux, donc courir le risque d'être mis en prison soi-même. Il y a 500 ans, les prisonnières de la tour de Constance, dont on a parlé tout à l'heure, détenues pendant des dizaines d'années après la révocation de l'édit de Nantes, dépendaient de l'argent collecté à l'étranger. Cette solidarité leur permettait d'acheter vêtements et nourriture. Si un jour vous passez dans le sud, allez visiter cette tour, la tour de Constance. C'est vraiment quelque chose de lugubre, quelques petites fenêtres. C'est terrible, des gens ont vécu là-dedans. 37 ans pour Marie Durand, mais en lisant l'histoire, je me suis aperçu qu'il y avait une autre sœur qui avait vécu 41 ans dans cette prison. Et aujourd'hui, en Érythrée, par exemple, plusieurs centaines de chrétiens sont emprisonnés dans des conteneurs métalliques en raison de leur foi. Pour manger, ils dépendent de leurs proches. Ces derniers, en venant leur apporter à manger, se font immanquablement repérer comme chrétiens par les autorités. Et donc, ils prennent des très gros risques. En Libye, nous avons nous-mêmes aussi rencontré des chrétiens qui osent faire de même, malgré les risques. Aller visiter les chrétiens qui sont en prison, leur apporter de la nourriture, les encourager aussi, les fortifier. Alors, comment aujourd'hui pouvons-nous nous identifier aux chrétiens persécutés? Tout à l'heure, Marc nous a parlé longuement de ce mot « identifier ». On s'identifie avec ces chrétiens. Tout d'abord, faisons connaissance avec eux. Pour cela, Portes Ouvertes fournit des informations venant du terrain. Chaque semaine, un email avec les dernières nouvelles de l'Église persécutée et des sujets de prière sont envoyés gratuitement à tous ceux qui le désirent. Certains d'entre vous doivent en recevoir, certainement, sont inscrits. N'hésitez pas à vous inscrire à ce fil rouge, c'est gratuit évidemment. Venez nous voir tout à l'heure après la réunion, on pourra vous inscrire si vous ne l'êtes pas. De plus, chaque mois, un magazine est édité avec un calendrier de prière qui est très précieux pour les soutenir dans la prière. N'hésitez pas à vous abonner personnellement, je trouve ce livret très agréable à lire et très, très facile à lire en même temps, il donne beaucoup d'informations et donc on se tient au courant de ce qui se passe dans le monde. Deuxièmement, comment aujourd'hui pouvons-nous leur exprimer notre compassion? La prière est bien évidemment la première façon de nous identifier à nos frères et sœurs.
Et lorsqu'il y a une pétition, eh bien, il est important de la signer. Et comme je vous expliquais tout à l'heure, eh bien, grâce à cela, les chrétiens en Irak vont avoir un soutien de la part de l'ONU. Nous pouvons aussi envoyer des messages d'encouragement. Si vous allez sur le site de Portes Ouvertes, eh bien, vous trouverez agir. Et dans agir, vous trouverez écrire. Donc, on peut leur envoyer une petite carte. Et nous-mêmes, on a eu le privilège d'apporter des enveloppes avec plein de cartes postales. Et vous ne pouvez pas vous imaginer la joie que peuvent avoir ces frères et sœurs. Ils tombent en larmes dans nos bras en disant, mais vous pensez à nous. Vous ne nous oubliez pas. À des milliers de kilomètres. Et pour eux, c'est un tel encouragement. N'hésitez pas à envoyer une petite carte postale à l'un ou à l'autre. Et puis, on peut aussi écrire à notre député, aller le rencontrer, et on a eu le privilège de pouvoir le faire aussi dernièrement, et ils sont très à l'écoute. Donc, si vous pouvez, allez leur parler de ce que vous pouvez soutenir au travers de Portes Ouvertes à votre député. Alors maintenant, il y a des choses aussi plus concrètes que chacun peut faire. Grâce à Portes Ouvertes, qui est un canal uniquement, eh bien, on peut participer à une soirée de prière pour les jeunes. Alors ça, c'est réservé aux jeunes, qui s'appelle Shockwave et qui vient d'être mise en ligne. Vous avez tout un pack qui est tout prêt, et donc la soirée est toute prête pour vous, les jeunes. Vous pouvez participer aussi à un week-end voyageur qui a lieu au mois de février. Et pourquoi ? Tout simplement parce que si vous voulez rencontrer des frères et sœurs dans différents pays, eh bien, le passage obligé, c'est week-end voyageur, parce que ce n'est pas que le Méditerranée comme voyage, bien entendu. Mais c'est extraordinaire d'aller rencontrer les frères et sœurs dans leur pays.
Ça dure combien de temps, pardon ?
Pardon ?
Ça dure combien de temps ?
Un week-end.
Qu'un week-end ?
De préparation.
De préparation.
Voilà. Un week-end de préparation pour apprendre comment voyager avec Portes Ouvertes. Voilà, excusez-moi, je me suis mal exprimée. Voilà. Et vous trouverez toutes les informations sur le site de Portes Ouvertes si vous désirez voyager. Et puis, vous avez aussi la possibilité, comme je vous expliquais tout à l'heure, la reconstruction des maisons en Inde, la construction d'une clinique, et c'est un bien grand mot pour ce que c'est dans notre image, au Nigeria l'année dernière. Cette année, je ne sais pas quel sera le projet, mais en marchant ou en courant 5 km, vous avez la possibilité de participer à ces projets. Ça se passe au parc de Saint-Cloud le 17 juin. Donc, vous pouvez y participer. Et puis vous avez un week-end annuel à Tamaril-Élis tous les ans où des frères et des sœurs viennent de différents pays nous expliquer comment ils vivent leur foi malgré la persécution. Et ce sont des week-ends qui sont très très enrichissants. Très enrichissants de demander à Viviane qui vient régulièrement et peut-être d'autres. Mais en tout cas, on en ressort fortifié dans notre foi. Et un dimanche, comme celui d'aujourd'hui, alors on vous dit merci. Merci de consacrer un dimanche pour nos frères et pour nos sœurs, pour qu'ils ne soient pas oubliés dans le cours de notre vie, qui est, comme pour tout le monde, bien agité, bien entendu, mais que cette partie du corps du Christ, qui n'a pas la liberté que nous avons, eh bien, reste associée à nous-mêmes. Et nous pouvons nous identifier et nous associer à cette partie du corps du Christ, que le Seigneur, lui, n'oublie pas.
Voilà, je voudrais conclure simplement en rappelant que les chrétiens persécutés eux-mêmes prient pour nous. Lorsqu'il y a eu tous ces attentats en France, en Europe, mais surtout en France, lorsqu'on était dans ces pays, beaucoup de chrétiens, surtout au Kurdistan, nous ont dit « mais on voit ce qui se passe chez vous ». Puis ils ont dit autre chose aussi en disant « méfiez-vous, ce qui s'est passé chez nous est en train de se passer chez vous, méfiez-vous ». Priez, parce que vous allez voir les mêmes choses, certainement. Ça, c'est eux qui nous l'ont dit, hein. La solidarité de l'Église s'exprime dans les deux sens. Les chrétiens d'Asie ou d'autres pays, même de la Corée du Nord, pays où les chrétiens sont le plus persécutés, nous ont fait savoir qu'ils priaient pour la France, donc lors de ces attentats. Ils vivaient, ces gens que nous visitions au Kurdistan étaient dans des camps de fortune, des camps sous tente, sous des petits bungalows, 7 ou 8 par mini bungalow. Il y a 1000 bungalows, imaginez 1000 bungalows qui sont côte à côte, 1000 tentes aussi, des gros, des énormes, des immenses camps. Alors maintenant, ça commence à se résorber, les gens repartent. Mais à cette époque-là, l'année dernière, quand nous sommes allés, ils étaient là-dessous et c'était très dur pour eux. Et ils nous disaient, malgré ces conditions qu'ils vivaient eux-mêmes, ils disaient, on prie pour vous parce que vous aussi, vous subissez la persécution. Donc, il y a vraiment, on est la même famille. Eux comme nous, ce n'est pas des chrétiens d'ailleurs, c'est vraiment des chrétiens qui font partie de la famille de Christ. Restons attentifs et les yeux ouverts sur cette partie de notre famille qui est l'Église persécutée. Que Dieu vous bénisse et vous encourage. Donc je vous exhorte à vous abonner à cette revue pour vraiment rester en contact. C'est très bien écrit, c'est toujours très bien fait. Je trouve que c'est vraiment important de penser à nos frères et d'avoir ce contact permanent avec cette Église. Voilà, je vais repasser la parole. Pardon, ah oui, on a une table là-bas au fond de l'église sur laquelle on vend des livres, ceux qui veulent en acheter, ceux qui sont intéressés, surtout des livres qui ont trait à la persécution, enseignement, édification, témoignage. Entre autres, on a sorti un livre qui est le témoignage des chrétiens de Corée du Nord. Il s'appelle Frères de sang. Qui est, moi, je l'ai lu récemment, on l'a sorti il y a très peu de temps. On l'a sorti au cadre annuel. C'est vraiment un livre qui vous met. Ça vous tend les boyaux, hein, je vous assure, quand on lit ça, comment les chrétiens, ce que les chrétiens peuvent endurer dans ce pays, c'est terrible. Et ça nous permet vraiment de prier pour eux. Voilà. Et puis, vous trouvez encore d'autres choses, n'hésitez pas à venir vous renseigner. Je voudrais encore passer la parole à Marc pour nous introduire peut-être dans un temps de prière. D'accord. Donc, on a pensé vous proposer un temps de prière spontané, là, en fonction de ce que vous, le Seigneur met sur votre cœur. On a du diapo là. Donc, merci pour votre soutien sur nos chrétiens persécutés. Restez informés. On va avancer encore d'une diapo. Il doit y avoir encore une diapo. Alors, encore une. Voilà. Quelques sujets de prière. Je vous les lis au cas où vous le voyez. Peut-être tout le monde les lit. Tout le monde peut les lire. Oui, oui. Ça va. Bon, d'accord. Donc, ça peut. Vous pouvez prier pour d'autres sujets hein, selon ce que le Seigneur met sur votre cœur. Hein. Voilà, merci. En tout cas, moi, je vais prier aussi pour vous. Marc va conclure derrière. Seigneur, nous te louons et te bénissons de ce que nous avons pu nous réunir ce matin en toute liberté, de pouvoir parler, d'avoir pu parler de tous ces chrétiens qui souffrent à cause de leur foi, parce qu'ils s'identifient à toi, Seigneur. Tu nous as montré que le chemin de la sanctification n'était pas seulement un chemin facile, mais pouvait être difficile. Et, Seigneur, tu protèges ces chrétiens. Nous te prions pour que tu les soutiennes, les protèges, chacun d'eux, Seigneur, que tu les consoles, tous ceux qui ont subi des pertes dans leur famille, Seigneur. Nous, vraiment, nous te prions pour que tu les gardes, leur donnes la force et qu'ils puissent être vraiment des témoins de ce que tu as été toi-même, Seigneur. Tu as été le témoin de l'amour de Dieu en donnant ta vie pour nous sur la croix. Ses frères donnent leur vie très souvent, ils sont prêts à donner leur vie en tout cas, et beaucoup l'ont déjà donné. Seigneur, nous te prions pour que ces témoignages puissent être vraiment la puissance de ton évangile, Seigneur. C'est ainsi que tu l'as voulu, et nous vraiment nous voulons l'accepter, et même avec joie, comme dit l'Épître aux Hébreux. Alors Seigneur, nous te prions de bénir ces prières qui vont monter vers toi ce matin, et nous t'en louons et t'en bénissons dans le nom de Jésus-Christ. Amen.